pendant qu'on lui met le micro pour qu'il soit là tout à l'heure. Donc c'est le frère Raymond, Raymond Sormain. Plusieurs d'entre nous, nous le connaissons maintenant. Il est dans notre communauté depuis quelques temps. Et nous souhaitons aussi que Dieu nous bénisse au travers des ministères des uns et des autres. Et ce matin, nous voulons être enrichis par cet enfant de Dieu, ce serviteur de Dieu, que Dieu donne aussi à notre communauté. Donc, je l'invite à venir et je vais prier pour confier ce temps à la grâce de Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu dis que ton Église est comme un corps avec plusieurs enfants de Dieu utiles à l'œuvre de Dieu. Et ce matin, ma prière, c'est que ton serviteur, notre frère, soit entre tes mains un instrument de bénédiction pour nous en tant qu'Église de Dieu. Nous, bien sûr, ici dans cette salle, mais toutes ces personnes aussi qui suivent. Que les paroles que tu as mises sur son cœur soient des paroles de vérité, des paroles qui viennent de toi, qu'elles puissent nous encourager, nous redresser, nous corriger, nous faire du bien. Nous sommes juste devant toi et nous souhaitons que ta grâce soit suffisante encore. En Jésus-Christ. Amen.
Amen. Bonjour à toutes et à tous. Je veux vraiment remercier le groupe de louanges pour la louange ce matin. J'ai envie de dire, j'ai pris mon pied. Pas vous? Non, si on pouvait continuer comme ça, moi j'ai rien à vous dire. J'ai 30 minutes pour vous déranger et pour vous convaincre. Je ne vais pas faire comme ce prédicateur qui avait mis un petit bonbon dans sa poche. Chaque fois qu'il prenait la parole, il suçait ce bonbon. Et quand le bonbon avait pris faim, avait viré à plus de goût, mais il savait qu'il fallait qu'il arrête. Et un jour, il s'est trompé de bonbon, il a pris un bouton de chemise. Vous voyez le truc? Donc il prêchait. Les gens lui faisaient signe, mais il prêchait. Parce que le bouton de chemise ne rendait pas l'âme. J'ai pas mis de bonbon, j'aurais mangé avant. 1 Samuel, je vous invite dans l'Ancien Testament. 1 Samuel, je vous invite à lire et à décortiquer ce passage que vous connaissez bien. Il est question de Anne. Je l'ai appelée la gracieuse parce que c'est un peu le sens de son nom, son prénom. Anne la gracieuse, ou comment gérer un conflit qui dure tout en gardant son témoignage intact. Et c'est pas facile. Et peut-être beaucoup d'entre vous, vous allez vous retrouver dans cette situation d'Anne. 1 Samuel, vous l'avez trouvé? Je sais qu'on va pas souvent dans l'Ancien Testament. Chapitre 1, et nous lirons jusqu'au verset 20. Il y avait un homme de Ramasaïm, Sophim, plus précisément Rama, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Yéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Souf, Éphratien. Donc pour ceux qui sont en Zoom et sur... YouTube, nous sommes dans la version de la colombe. Verset 2. Elkana avait deux femmes. Le nom de l'une était Anne et le nom de la deuxième, Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte, parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit, « Mais Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé Est-ce que je ne vaux pas pour mieux que 10 fils pour toi? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit: « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seuls ses lèvres muaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit: « Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé, et je n'ai bu ni vin ni liqueur forte, mais j'ai penché mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit: « Mais va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Elle dit: « Que ta servante obtienne ta faveur. » Et cette femme poursuivit sa route, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme, Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Jusqu'ici notre lecture. Peut-être que vous vous demandez pourquoi un tel passage dans la Bible. Qu'est-ce que ça nous apprend? Et comme je suis un peu provocateur, j'aime décortiquer les textes, j'aime faire dire au texte ce qu'il ne nous dit pas. Et donc, je me souviendrai toujours de ce professeur à l'institut, il disait: imaginez-vous un petit poisson rouge dans un bocal. Beaucoup ici d'entre nous avons eu ça, n'est-ce pas? Et il dit: regardez le poisson rouge dans le bocal. Et plus vous le regardez, chaque jour vous allez observer un détail que vous n'avez pas vu. Observez le poisson rouge. Et dans ce texte que vous connaissez, il y a parfois un passé qui revient dans notre vie aujourd'hui. Et il nous arrive de jouer un rôle négatif sans le savoir. Les frères et sœurs se posent des questions: mais pourquoi un tel est si sombre? Pourquoi un tel ne sourit jamais? Pourquoi un tel est comme ça? Parce qu'on ne connaît pas le passé de la personne. On connaît des bribes, des éléments de sa vie passée qu'elle a bien voulu nous dire. Mais on ne se débarrasse pas toujours de notre passé. Et parfois, on a des réactions violentes. Et c'est un peu la problématique de notre passage ici ce matin, sauf que Anne va gérer l'affaire. C'est pourquoi je l'appelle la gracieuse. Elle a géré l'affaire comme on dit « je gère ». Un homme, deux épouses. Et ici, certains vont répliquer avec raison, c'est la faute au mari. Ou c'est la faute à Anne, elle n'aurait jamais dû accepter ça. Pourquoi? Parce que ce n'était pas dans le plan originel, n'est-ce pas? Mais d'autres vont dire, oui, mais Elkana n'a pas inventé la faute. Hein? Beaucoup d'autres patriarches avant lui ont eu des femmes. Bon, néanmoins, le problème ici ne tourne pas autour du fait que Elkana avait deux épouses, mais plutôt sur le fait que Elkana aimait beaucoup Anne, qui n'avait pas d'enfant. C'est la fête des mères. Hein? Et il aimait aussi Pénina, qui faisait des enfants, veux-tu, en voilà. Et ça, comprenez bien que Pénina ne trouvait pas ça juste. Mettez-vous à sa place. Elle a quand même des droits. Elle a plus d'enfants que celle-là. Celle-là qui n'a rien. Et c'est à elle que tu donnes une double part. Comme si chaque fête des mères, et c'était 3 fois par an, hein, la fête des mères à l'époque, il emmenait Anne en croisière dans les hôtels de luxe. Et puis à Pénina, il disait, tiens, ticket restaurant, va à McDo avec tes enfants. Pas juste, hein? On comprend Pénina ou pas? mettez-vous à sa place. Et donc, ne pas pouvoir enfanter hier comme aujourd'hui, c'était quelque chose de pas sérieux, je dirais, pour une femme, parce que c'était une honte. Et souvenez-vous de Rachel qui va voir son mari, Jacob, et puis qui dit « Donne-moi des enfants, sinon je meurs. » Et Sarah est obligée d'attendre 99 ans. Et dit, les gens se moquaient de moi, c'était éternel quand même. Mais c'est Dieu qui fait croître, c'est lui qui rend fécond, c'est lui qui rend stérile aussi. Et des enfants, c'est pas donné à tout le monde. Et... heureux le mari à l'époque, et encore aujourd'hui, à qui on venait dire, il t'est né un fils, un enfant mâle. Parce que c'était la prospérité, c'était la survie de la famille. Et plus il avait des garçons, plus il était content, plus il était heureux. Mais ne pas pouvoir enfanter, ça ne relevait pas forcément du mari, ni même de la femme. Et j'ai envie d'ouvrir une parenthèse pour dire, gardons-nous de la pression que nous mettons sur les jeunes, sur les couples. S'ils n'arrivent pas à avoir des enfants, c'est pas parce que vous allez remettre la pression qu'ils en auront. Et c'est parce qu'ils ont choisi un temps pour avoir. Et vous ne savez pas en secret ce qu'ils font comme examens médicaux pour en avoir. Mais jusqu'à quand? Vous avez à attendre quoi? Que je meure pour avoir des enfants? Mais c'est pas de la faute. Quand est-ce que je serai mamie et papy? C'est tout ce qui compte. Et donc, gardons-nous aussi sur les célibataires de leur mettre la pression. Ils sont déjà en prière. Ils prient, ils voient, ils disent, ah, c'est peut-être celui-là ou celle-là, mais non, c'est pas lui, c'est pas elle. Et ça continue. Et on voit 35 ans, je suis là, j'ai rien. Et vous venez encore ajouter une charge pour lui dire, quand est-ce que tu te maries? Quoi que c'est intéressant? Prions le Seigneur pour qu'il nous donne la sagesse. Je referme ma parenthèse. Gardons-nous d'oublier le mardi ou le jeudi nos frères et sœurs célibataires et autres dans la prière. Gardons-nous d'oublier. Anne, la gracieuse, se trouve au cœur de l'histoire et on dirait entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il y a son mari qui fait des cadeaux en double portion à sa rivale. Et puis de l'autre, il y a Pénina. Et le texte nous dit que Pénina prenait un malin plaisir chaque année. On ne sait pas si elle s'associait avec ses enfants. Mais chaque fois qu'il montait au sanctuaire à Silo, donc il faisait 25 km aller, 25 km retour, c'était pas rien, il n'y avait pas SUV comme maintenant. Il n'y avait pas Ouigo. Et donc, Pénina trouvait l'occasion pour lui dire, « Belle élève, tu es toujours stérile. Tu n'as pas d'enfant. » On ne sait pas combien d'enfants Pénina avait. Les enfants ont grandi. Donc, ça devait être difficile pour Anne, qui portait déjà la honte à chaque fois de s'entendre dire, « Belle élève, t'as pas, tu vas vieillir toute seule. » Et... un texte, une version dit que Pénina provoquait la tempête, le terme est fort, hein, provoquait la tempête chez Anne pour qu'elle maudisse Dieu, parce que c'est la faute à Dieu. Ça vous fait penser à la femme de Job. Maudit Dieu et meurt. Et vous savez les conséquences quand on maudit Dieu, on termine mal. Trois fois par an, il montait à Silo, c'est là qu'était le sanctuaire, pour offrir des sacrifices. Et il est dit que Pénina agissait de la même manière. Et quand je dis nous allons décortiquer le texte, c'est voir à quel moment Anne pète un plomb. Et je répondais tout de suite, jamais. LGA. Nous ici, nous avons déjà pété un plomb, n'est-ce pas? Il y a longtemps qu'on aurait déjà dit à cette dame-là, tiens-toi bien, il va t'arriver du monde. Et j'ai vu une sœur une fois avec des ongles comme ça, elle m'a dit, je lui ai dit, mais c'est quoi? Elle m'a dit, c'est pour me défendre. Agrippio. Vous connaissez ça? Je te vole dans les plumes et tu vas rester tranquille. Mais Anne n'est pas comme ça. Même si l'autre a de quoi la pousser à s'envenimer et à entrer en conflit avec, elle ne réagit pas. Chez nous, aux Antilles, on la traiterait de mouton. Mais elle n'est pas mouton, méfiez-vous. Au verset 8, nous avons une réaction de ce mari, de cet époux Elkana, des plus stupides. Loin d'encourager sa femme, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi? Quand vous voulez aider quelqu'un, évitez de poser la question pourquoi. Il n'y a pas de pire situation d'embarras que de dire, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu as répondu ça? Pourquoi? La personne même ne sait pas pourquoi. Mais il se trouve que Elkana dit, mais chère femme, pourquoi pleures-tu? Tu pleures pour ça? Et de dire que, mais pourquoi tu ne manges pas? Je me suis toujours posé la question comment les maris, les papas faisaient pour manger alors que la situation était tendue. L'épouse n'a pas faim, mais le mari, il pose aucun problème, il mange. Bon, je refais ma parenthèse. Pourquoi pleures-tu? Et puis, il lui donne le coup de grâce. Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Regarde le beau gosse qui est devant toi. Non, mais rigole là. Chères sœurs, les hommes vous fermez les oreilles. Est-ce que les maris ont compris quelque chose aux femmes? Allô? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de besoins que les femmes ont et que les maris n'ont pas toujours compris parce qu'ils ne sont pas à l'écoute. J'ai une qui me dit tout le temps, tu ne me regardes pas, tu ne me touches pas. Suivez mon regard. Bon. Mais imaginez, parce qu'on essaye de comprendre, imaginez le regard interrogateur de Anne posé sur son mari, de dire, tu me demandes pourquoi, c'est à cause de toi que je suis dans cette situation, et tu me demandes pourquoi, je pleure. Et de dire, t'es bien une femme, toi. Tu pleures tout le temps. C'est toujours comme ça, gnien, gnien. Aïe, aïe, aïe. Et j'entends ici Elkana dire à Anne, chaque année c'est pareil, c'est la même rengaine, tu refuses de manger, tu fais peine à voir, tu pleures et tu ne sais pas pourquoi, c'est agaçant. Tu commences à nous. À faute à qui? Entre nous, Elkana n'a rien compris. Un bon mari, chers frères et sœurs, ne remplacera jamais le bonheur qui prouve une femme à dorloter un bébé. Et c'est ce que Anne demande. Être mère. Pas seulement être épouse, être mère. Et il me semble que c'est le désir de toutes les femmes, non? Et le silence d'Anne a valeur de mépris, non seulement à l'égard de son mari, mais à l'égard aussi de Pénina. Vous avez noté qu'il n'y a aucun échange, ni verbal, ni physique, entre Anne et Pénina. Lisez bien le texte. Aucun échange, ni verbal, ni physique, entre Anne et Pénina, ni même entre Anne et son mari. Elle le regarde. J'ai envie de dire elle est méprise, mais le texte ne dit pas ça. Donc, elle est une femme respectueuse. Elle sait ce qu'elle va faire. Le texte ne dit pas non plus qu'elle va vers son mari ou vers Pénina pour dire à l'un d'un côté, écoute, parle à ta copine là parce qu'il va lui arriver du monde. Elle n'aura pas assez de chaise. Elle ne dit pas non plus à Pénina, tu vas rester tranquille parce que ça va mal aller. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ces échanges, rien. Anne point sur elle. Il n'y a pas non plus l'ombre d'une sœur de prière pour l'inviter à porter le fardeau, parce que c'est un fardeau. Personne. Anne est seule. Et être seul à porter un fardeau dans un couple, dans une situation, c'est difficile. Il faut trouver, il faut parler, il faut trouver un support quelconque. Anne n'a personne. Et l'isolement dans ces situations-là n'est jamais un bon compagnon, ni pour un, ni pour l'autre. Et j'ai envie de dire tout de suite, chère sœur, vous êtes dans une communauté, vous avez la chance d'avoir un groupe de femmes. Faites appel au groupe de femmes. Mais des fois, on veut pas parce que c'est mon problème, ça va s'arranger. Combien de fois j'ai entendu ça? Ça va s'arranger, ça va s'arranger. Puis ça s'éternise des années. Ou bien je ne veux pas que mon problème soit répété, etc. Cherchez ainsi, ni l'église, ni votre mari, ni votre famille ne vous aide, il vous reste qui? Alléluia. Il vous reste Dieu, il vous restera toujours Dieu. Pas d'échange entre Elkana et Anne. Oui, j'ai dit entre Anne et Elkana, mais j'ai dit entre Elkana et Anne. Où Elkana va dire à sa femme, viens ma chérie, tu souffres, on va prier. Combien de fois, cher frère, cher mari, vous avez dit à votre épouse, allons prier parce que ça ne va pas. Je vois que tu ne te sens pas bien. Allô? Pas d'échange non plus entre Anne et son Dieu. Ah. Une seule fois, on voit Anne entrer en prière. Peut-être qu'elle a prié pendant toutes ces années-là. Mais regardez bien le verset 11. Puisque Dieu connaît nos situations, puisque Dieu entend et que Dieu voit nos combats, nos besoins, rien n'est étonnant de sa part et qu'il est capable de nous délivrer. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il dit jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Ah, on peut pleurer devant le Seigneur sans jamais demander quelque chose. N'est-ce pas? Et au verset 11, Anne va prendre sur elle va encaisser, elle va souffrir, mais parce qu'elle est enfant de Dieu, pardon, excusez-moi, elle va prier. Vous savez, tous nous prions, n'est-ce pas? Et souvent, nous disons, ah, je prie, je prie, je prie. Il a prié pour et il a prié avec. Ça fait deux choses différentes. Oui, je prie pour toi. Mais si tu ne connais pas tellement le besoin, tu as du mal. Le Seigneur sait. Mais prier avec. C'est l'association. On est plus fort. À partir de deux, on dit, c'est un troupeau. Et Dieu voit et Dieu entend. Et parce que Dieu ne veut pas nous laisser dans notre situation difficile, et parce que Dieu connaît ce que c'est que la souffrance, alors il va entendre Anne prier. Et au verset 11, passez-moi l'expression, mais Anne va faire une sorte de deal avec le Seigneur. Un pacte. Lisez le verset 11, ou lisons le verset 11. Au verset 10, 11. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et elle pleura beaucoup. Ce n'est pas parce qu'elle a pleuré, hein, mais elle a prié différemment. Et elle fit un vœu et dit, Éternel, désormais, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Il sera naziréen, en fait. Si, 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 si. Vous connaissez ceci? Et tous ici, nous avons prié ainsi. Seigneur, si tu me donnes le bac, si tu me donnes le permis, si tu me donnes la voiture, si tu me donnes un époux, une épouse, si tu me donnes, je serai fidèle. Allô, combien de fois on a fait ces prières-là, on n'a pas été fidèle? Moi, le premier. Mais le Seigneur entend les prières. Mais parce que le Seigneur connaît le secret des cœurs, le Seigneur a analysé la prière de sa servante comme il avait analysé la prière d'Ézéchiel. Le Seigneur va marcher dans la combine. Parce que tu as dit, parce que tu as fait, c'est quelque chose de fort. Et le Seigneur, parfois, il nous a déjà répondu, hein? Paul dit, trois fois j'ai prié, il m'a dit, ça suffit. Moïse a prié, il a voulu voir Canaan, entrer dans Canaan. Dieu lui a dit non, tu verras, mais tu ne vas pas entrer. Et puis maintenant, ça suffit. Samuel, plus tard, a prié pour Saül. Dieu dit, ça suffit, arrête de pleurer sur Saül. Finis puis ça. Et donc, Dieu nous connaît. Dieu, parfois, répond, mais on persiste. Mais Dieu voit, Dieu connaît, Dieu sait. Et vous savez, Dieu va relever Anne, et je vous invite en dessert cet après-midi à lire le chapitre 2 jusqu'au verset 21, voir comment Anne va se réjouir dans son cantique. Elle va se moquer indirectement de Pénina dans son cantique. Et puis Dieu va lui donner plus qu'un fils. Elle aura 3 fils et 4 filles. Dieu n'est pas bon. Il est plus que bon. Il n'est pas petit, il est grand. C'est pourquoi nous ne devons pas faire des petites prières, mais de grandes prières en un grand Dieu. Alors, Dieu sait. Et Dieu ne donne pas des petites choses à ses enfants. Il dit, il peut donner au-delà de ce que nous pensons et demandons. Dieu va accorder à Anne. Et Anne va respecter son pacte avec Dieu. Elle va consacrer cet enfant à Dieu. Et elle va le faire savoir à son mari. Et imaginez la réponse d'Elkana. Tout ça pour ça. Tu m'as embêté pendant des années pour un fils. Maintenant, tu le confies au Seigneur. Elle a dit, ça, c'est les femmes. Mais Anne sait, Anne gère. Combien de fois, je vais passer rapidement, hein, sur l'intervention du prêtre Élie. Fin du verset 13. Chaque année, il voyait Anne dans cet état au temple, au sanctuaire. Jamais il n'avait bougé le petit pouce. Et aujourd'hui, il dit à Anne, écoute-moi, chère dame, va cuver ton vin ailleurs. Pas ici. Combien de fois avons-nous essuyé des revers de la part de frères et sœurs à qui on a voulu partager un problème et puis ils n'ont pas le temps, y compris des serviteurs de Dieu. On vous écoute, mais on ne vous écoute pas. On aurait pu dire beaucoup de choses sur les causes et les conséquences de l'amertume. Anne fait comprendre qu'elle a du chagrin et elle est amère. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui peuvent causer l'amertume et il y a parfois des conséquences qui sont graves. On peut devenir des parents toxiques pour les enfants. Mais bon, je referme la parenthèse sur le comportement d'Élie parce que ce n'est pas notre problème ce matin et ni les causes et les conséquences de l'amertume. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit que l'amertume est contagieuse. On peut contaminer toute une famille, toute une communauté, sans pouvoir s'en sortir parce que on n'a pas su gérer. Anne avait toutes ses raisons pour se faire entendre, à la fois par son mari, sa rivale et Élie le prêtre. Élie n'était pas mauvais, mais bon, il n'avait pas le temps. Mais elle est pleine de grâce et en dépit de son chagrin, de sa douleur, elle va rester polie. Vous n'avez jamais parlé à quelqu'un gentiment et puis la personne vous rentre dedans parce que vous vous êtes trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Et bim, tout ce qu'elle n'a pas voulu vous dire à l'autre, vous prenez tout en pleine face. Parce que vous n'étiez pas à votre place. En conclusion, je ferai quelques remarques et je poserai certaines questions à vous de répondre chez vous. Apprenons à être à l'écoute des autres. Usons le discernement. Et j'aimerais dire que souvent nous entrons dans la communauté le dimanche matin, nous ressortons, personne ne sait si un tel était là, si un tel est venu avec un fardeau et repartir avec un fardeau. Comment il était habillé? On est une famille ou pas? Apprenons à être à l'écoute des uns des autres. Peut-on être spirituel et aveugle? Souvenez-vous de l'église de Laodicée. Parce que tu dis, je suis, moi je te dis. Tu es pauvre, aveugle, nu, misérable. Et j'ai envie de dire, revoyons notre copie. Elkanah, pendant des années, pensait faire du bien à sa femme bien-aimée, sa femme qu'il aimait, il aimait vraiment Anne. Mais il ne voyait pas sa douleur et il n'entendait pas sa souffrance. Elle n'était pas malade, Anne, mais elle souffrait. Parce qu'on peut souffrir sans être malade. Mais il ne voyait pas sa souffrance et il pensait combler sa souffrance par des cadeaux. Imaginez, vous recevez 10 bouquets aujourd'hui, bonne fête maman. Et puis, en dehors de ça, on vous méprise. Bonne fête, ma femme chérie. Je vous signale, j'ai pas acheté de bouquets, mais ma femme, c'est plus que j'aime. Mais c'est pas avec les frères que je veux lui dire. Et on aime à dire, c'est tous les jours la fête des mères. Donc, au fond des frères, tous les jours. Et je ne vais pas soulever la problématique. Quand est-ce que tu as acheté un bouquet pour ta femme la dernière fois? Mais bon, le texte ne dit pas non plus combien d'années avait dû prier Anne pour Pénina, demandant à Dieu de la faire taire ou de l'aider à la supporter, y compris ses enfants. Mais elle a certainement dû prier pendant des années, parce que chaque année c'était pareil. Et parfois la Bible nous invite, à persévérer dans la prière. Et non pas à dire j'ai assez prié, je passe à l'action. Et moi j'ai rencontré un frère une fois, il m'a dit moi, je suis passé à l'action. Il dit ah bon, ça veut dire quoi? Il m'a dit ah, j'ai assez prié. Il m'a dit Jésus ne répond pas, j'ai fait un coup de Marie. Cette Marie pleine de grâce. Il m'a dit, comme j'ai fait de la boxe avant, donc j'ai réglé l'affaire. Parce que Dieu nous demande, n'est-ce pas? Mais attention aux réactions. Anne nous a donné un comportement que nous devons suivre. Garder les yeux sur Christ. Espérer en l'Éternel. Fortifie-toi, dit la parole. Espère en l'Éternel. Anne n'avait pas de soutien. Ni de son mari, ni de quiconque, mais elle a tenu bon, parce qu'elle savait que son Dieu était là. Et puisque nous savons que notre Dieu veille, alors restons attachés à ses promesses. Je termine avec ce texte, en Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14. Rechercher la paix avec tous. C'est pas simple, hein? Que ce soit au travail, que ce soit dans le voisinage, dans la famille même. Nous qui sommes la lumière d'ici-bas, le sel de la terre, nous devons rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. C'est la recommandation, le conseil que je saurais vous laisser ce matin. Veillez. Veillons à notre comportement. Veillons à nos relations les uns avec les autres. Là où nous sommes. Parce que le Seigneur nous voit. Le Seigneur sait, le Seigneur connaît les situations par lesquelles nous passons et apprenons à mettre toute notre espérance en l'Éternel Dieu parce que c'est lui qui accomplit ses promesses. Et nous ne sommes pas là pour lui donner un coup de main. Amen. Que Dieu nous garde.
Anne la gracieuse.